Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou alors en podcast sur le site www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de trois personnes, à commencer par Josette Liou, bonjour.
Oui, bonjour Yves.
Bonjour Josette, donc vous êtes bénévole au Petit Frère des Pauvres, installé sur Die depuis 2014. À vos côtés, vous avez aussi, nous avons Sandra Allier, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes salariée et donc coordinatrice aussi au sein de cette association des Petits Frères des Pauvres.
Oui.
Et ensuite, nous finissons avec Dominique Vidal-Gazit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'AVAD, c'est-à-dire l'association Vivre à domicile, basée à Die également. Et donc, toutes les trois, vous êtes ici pour nous parler des colis de Noël, et en partenariat donc entre vos deux structures, c'est-à-dire l'AVAD et les Petits Frères des Pauvres. Vous êtes ici pour nous présenter ce qui va se produire, donc sur quelle période?
C'est assez simple, il s'agit en fait de faire plaisir aux plus anciens d'entre nous dans la société, qui sont souvent assez isolés et assez seuls. Et jusqu'à présent, on organisait un repas tous ensemble au moment de Noël, le jour de Noël ou la veille de Noël. Et parallèlement, on offrait, grâce à la participation des Petits Frères des Pauvres, des colis gastronomiques à tous les anciens. Bon, cette année, il n'y aura que les colis, mais c'est déjà une occasion de marquer le coup et une occasion d'échange et d'accompagnement des plus anciens d'entre nous.
Avant de continuer, nous allons présenter ce qu'est l'AVAD. Hein. Les Divois le connaissent, mais souvent des personnes nouvelles ne connaissent pas tout ce qui se passe dans la ville. Et puis, on parlera aussi des Petits Frères des Pauvres. Hein. Alors, à commencer par l'AVAD, c'est l'association Vivre à domicile. En quoi se résume son activité?
Alors, l'association Vivre à domicile, c'est une grande association d'Ivoise qui a été créée en 65. C'est une association qui aujourd'hui a environ 90 salariés et qui assiste environ 600 personnes sur le Diois, mais jusqu'à la Motte-Chalancon et jusqu'à Oust. Donc c'est une association qui est gérée par des bénévoles, qui est dirigée par des bénévoles et qui a comme mission d'assister à leur domicile des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes malades, hein, l'ensemble de ces populations qui ont besoin d'un coup de main pour pouvoir rester chez elles. Rester chez elles, ça veut dire à la fois préparer un repas, ça peut être faire du ménage, ça peut être faire des toilettes, permettre aux gens de se lever le matin. Et c'est toute une activité qui est assez invisible. Donc c'est compliqué parce que c'est à la fois une grande association, mais l'activité ne se voit pas puisque par définition, elle est faite au domicile des personnes. Donc on a créé depuis 4-5 ans des partenariats de type culturel ou humanitaire pour aussi sortir l'image de ce service à domicile et avoir des actions avec d'autres grandes associations comme c'est le cas avec les Petits Frères des Pauvres. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure. On est en train de réaliser une fusion, de modifier la structure de cette association, et avec une fusion qui aura lieu au 1er janvier, mais dont on aura peut-être l'occasion de reparler.
Et puis, on présente également l'association des Petits Frères des Pauvres, qui est une émanation de ce qui existe depuis 1946, vous le disiez tout à l'heure, en France.
Oui, tout à fait. Pour rappeler un petit peu l'historique de l'association, effectivement, c'est donc une association nationale qui a été créée en 1946 donc par Armand Marquiset, qui faisait partie de l'aristocratie française, qui était vraiment en quête de sens, de pouvoir donner du sens à sa vie et de se rendre vraiment utile aux autres. Donc son projet, c'était vraiment de mobiliser les jeunes hommes pour pouvoir aider les personnes démunies. Et les personnes démunies, au moment de l'après-guerre, c'était essentiellement des personnes âgés. Donc, d'où l'appellation justement des petits frères des pauvres. Armand Marquiset appartenait à. Enfin, avait des croyances religieuses et avait envie que cette association ait plutôt un sens religieux. L'Église l'a vraiment conseillé de s'orienter plutôt sur une association laïque pour pouvoir répondre justement aux besoins des citoyens et que cette association soit laïque. D'où, effectivement, la création d'une association donc non confessionnelle et apolitique qui est reconnue d'utilité publique et qui vit grâce à la générosité du public. Et le cœur de la mission de l'association, c'est vraiment de rompre l'isolement des personnes âgées de plus de 50 ans, donc isolées, qui n'ont plus du tout d'entourage familial sur qui compter, et plutôt voilà, à destination d'un public démuni avec des ressources modestes.
Josette Liu, donc vous êtes bénévole hein, depuis la création de l'antenne de Die.
Oui,
qu'est-ce qui vous a emporté sur cette démarche ?
Bon, eh bien, je vais expliquer tout ça. Je faisais partie de la commission vieillissement au niveau de l'espace social et culturel du DIWA parce que j'étais secrétaire de l'association du club du club des aînés qui s'appelle l'Escapade. Et il y avait un stage qui était prévu pour l'écoute attentive et je me suis inscrite avec plusieurs collègues. On a eu les services, si on peut dire, de la psychothérapeute qui nous a fait un stage de 5 semaines, enfin un jour par semaine pendant 5 semaines et qui était fort intéressant sur l'écoute attentive pour éviter l'isolement des personnes âgées. Et puis, on s'est un petit peu arrêté. C'était en sommeil parce que nous ne voulions pas créer une structure spéciale, association type loi 1901, parce qu'on n'était pas assez nombreux et on n'était pas capable de gérer ça. Et puis, on a eu la chance que les petits frères des pauvres faisaient un peu un maillage dans le département, avaient rencontré les élus départementaux qui avait dit, mais écoutez, vous cherchez des bénévoles, mais à Die, il y a déjà une petite équipe qui est prête. Si vous voulez la rencontrer, elles sont disponibles. Et voilà, ça a démarré comme ça. On a eu pas mal... J'étais avec Mireille, surtout. On a fait un travail assez long sur Die, rencontrer tous les professionnels de santé, les médecins, les infirmières... pour avoir des signalements, et tout a débuté comme ça en 2014, fin 2013, début 2014. Et voilà, depuis, donc, on s'est lancé dans cette aventure, si on peut dire, c'est pas une aventure, mais voilà. Et puis, on a pu donc avoir des accompagnements de personnes seules, isolées. Moi-même, j'ai accompagné 2 personnes, je n'en accompagne plus qu'une, puisque l'autre... hélas, elle est partie chez sa fille parce qu'elle ne pouvait plus rester à domicile. Et il, c'était un monsieur, il est décédé récemment. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que je l'ai accompagné assez longtemps. Et l'autre personne que j'accompagne, elle est maintenant en EHPAD, mais elle va avoir 104 ans à Noël. Elle se prénomme d'ailleurs Noël. Et je vais la visiter, donc continue à la visiter à l'EHPAD de Die. Elle va pas trop mal, d'ailleurs. Voilà, donc tout ça, c'est en somme, j'allais dire, une récompense parce que je pense qu'on apporte beaucoup aux personnes âgées, mais ils nous le rendent bien aussi. Voilà.
Sandra Allier et Dominique Vidal-Gerzit, est-ce qu'il y a une similarité d'organisation dans vos 2 structures par rapport à ce que vous proposez au public ? Et de là, est-ce que c'est pour ça que vous sentez la probable association des 2 en une seule entité ?
Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on est extrêmement complémentaires. Parce que si vous voulez, là où les petits frères des pauvres vont rendre visite d'une façon bénévole pour un moment... d'échanges, de conversations avec avec les anciens sur un petit nombre, parce que finalement, il y a relativement peu de bénévoles, parce que c'est du temps et c'est de l'investissement. Nous, on est sur une double contrainte dans l'aide à domicile. On est sur la contrainte d'organiser du service, et du service tous les jours, parfois trois fois par jour, chez certains bénéficiaires. Et parallèlement à cet engagement, à ce service qui doit être de qualité, avec des salariés formés, qualifiés, etc., on a eu l'ambition depuis, je dirais, 4 ans, d'avoir un service et une ouverture culturelle proposée aux anciens, alors ouverture culturelle ou moment d'échange, qu'on va mener avec d'autres structures, parce que c'est pas, nous n'avons pas en interne forcément les ressources pour le faire, mais que c'est l'occasion de partenariat au niveau local. Donc là, on parle du partenariat avec les Petits Frères des Pauvres. Il y a des partenariats avec le Théâtre de Die, il y a d'autres partenariats. Et c'est l'occasion de montrer que même quand on est âgé, les choses ne s'arrêtent pas, les envies ne s'arrêtent pas, et qu'il y a des besoins au-delà des gestes élémentaires ou essentiels, comme on dit aujourd'hui. Il y a tous ces gestes essentiels qui doivent être satisfaits pour survivre chez soi, mais on a toujours la même curiosité de lire, d'échanger, de converser, de rencontrer d'autres gens. Et c'est dans ces partenariats qu'on arrive aussi à le monter.
Sandra ?
Oui, pour compléter, effectivement, l'association a vraiment un cœur de mission de pouvoir recréer du lien social à des personnes qui n'en ont plus. Et dans cette dimension-là, il y a toute une importance, en tout cas, de vraiment créer un maillage avec l'ensemble des partenaires aussi, pour pouvoir aussi répondre à d'autres problématiques qui malheureusement, sont souvent identifiées par les bénévoles au domicile. Quand il y a un manquement de lien social, c'est qu'il y a souvent des problématiques qui peuvent être liées au logement, des problématiques de santé, etc. Donc ça, c'est important de pouvoir, de pouvoir faire un maillage et de pouvoir en tout cas travailler ensemble et de pouvoir mutualiser en tout cas nos connaissances, nos envies, nos forces, pour pouvoir répondre aux besoins à un public qu'on peut avoir en commun avec l'AVAD.
Il y avait peut-être une augmentation de sollicitations.
Une augmentation des sollicitations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par les interventions qu'on opère, qui sont très pratico-pratiques parfois, mais on participe à l'identification d'un certain nombre de personnes qui sont seules, dont on dans le DIY, des gens seuls, ça peut être des gens au fin fond d'une campagne, de leur maison dans laquelle ils sont si heureux de rester, etc. Mais personne ne sait qu'ils sont là, ils sont au bout d'un chemin. Et si vous n'y allez pas, vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de vivre encore à cet endroit. Donc je pense qu'il y a une connaissance de ce public qui n'est pas facile à acquérir, qui met des années. Je vous dis, quand il y a une antériorité, et puis on a des salariés qui sont au plus près du terrain, dans les villages. Donc elles connaissent un tel qui a vieilli, un tel qui a perdu sa femme, un tel. Donc ça, c'est extrêmement important pour que le service soit calé au plus près du besoin et de la demande qui n'est pas toujours exprimée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'expriment pas leurs besoins. Ils sont habitués à être dans un environnement, dans un logement qui est complètement insalubre, mais ça a toujours été comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'ils demanderaient ? Donc si vous voulez, il faut, c'est le rôle aussi des associations comme les nôtres, d'identifier ces situations et de passer le relais à des gens dont le travail peut être éventuellement de trouver des solutions ponctuelles, que ce soit sur le logement ou sur autre chose.
Vous avez un certain agrément donc pour opérer de cette sorte, c'est-à-dire d'explorer le territoire à la recherche de personnes isolées. Et comment ça se passe ? Vous avez un soutien certainement aussi au niveau de la collectivité ou d'une administration ?
Alors en ce qui nous concerne, à l'AVAD, on a un agrément, on a un double agrément du département et de la direction du travail, de l'inspection du travail. Et on a une autorisation à exercer qui est renouvelée régulièrement et sans laquelle on ne pourrait pas, évidemment, aller auprès des anciens. Parce que vous vous doutez bien, par les temps qui courent entre réseaux sociaux et autres, la population auprès de laquelle nous intervenons, c'est une population fragile, c'est une population qui demande à être protégée. Et c'est vrai qu'il est absolument nécessaire. Mais la question s'est posée, par exemple, dans notre opération sur les colis de Noël. Quand on va remettre en tant que bénévole un colis de Noël chez quelqu'un, alors je ne vous parle pas en plus des conditions sanitaires en ce moment, mais il est évident qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui au domicile d'une personne qui est seule, isolée, fragile et facile à abuser, je vais dire un peu rapidement. Mais il est absolument nécessaire qu'il y ait cette protection, et c'est la même chose avec les salariés.
Ça nécessite toute une logistique particulière, et est-ce que ça empiète sur justement votre activité au niveau de pouvoir satisfaire l'ensemble des personnes dont vous vous occupez ?
Alors moi je dirais qu'il a fallu faire face, en tout cas l'association a fait face à des nouvelles capacités d'adaptation, en tout cas de s'adapter à cette crise sanitaire. Et je pense que voilà, sur ce deuxième confinement, on a pu servir quand même de cette première, de la première expérience du confinement, de tous les efforts consentis, de toute la créativité aussi bien des bénévoles aussi et des salariés pour vraiment mener à bien les actions qui peuvent être pérennisées et de vraiment maintenir le lien social. Et en proposant aussi, surtout sur le premier confinement, des nouvelles formes d'accompagnement. Voilà, l'essentiel des bénévoles, voilà, mener plutôt des accompagnements téléphoniques, mais avec un renfort d'autant plus soutenu, avec des appels voilà, quasi quotidiens, en tout cas pour les personnes à domicile qui le souhaitaient. Et ce deuxième confinement, grâce à cette expérience, en tout cas, on ressent quand même qu'il y a un peu plus de sérénité, de confiance aussi, en mettant en place et en conservant, en tout cas, si les personnes le souhaitent, avec toutes les mesures de protection, de pouvoir continuer des visites physiques à domicile ou en établissement, en tout cas si l'établissement le permet, et en respectant voilà, tous les protocoles des établissements.
Ça a un réel coût, cette procédure de protection sanitaire. Est-ce que ça en pourcentage, ça amènerait quel pourcentage de plus ?
Si vous voulez, ça a forcément un coût parce que il faut équiper les gens, enfin les intervenants en gants, enfin nous dans l'aide à domicile en gants, en charlotte, en blouse, en surblouse, en masque. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, dans ce deuxième confinement, et je vais dans le sens de Sandra, les choses étaient un peu plus... On était déjà un peu familiers. Où ça a été extrêmement compliqué, ça a été au cours du premier confinement. Nous avions réussi à maintenir la moitié de l'activité pendant l'ensemble du confinement de la première période. Là où tout le monde disait, là, aux abris, on s'arrête, tout le monde s'arrête. Mais on ne peut pas, tout le monde ne peut pas s'arrêter et laisser les plus faibles... tout seul, chez eux, isolés. Par définition, il fallait maintenir du service et du service en présentiel. Parce que les besoins des gens qui restent 6 semaines, 8 semaines, tout seuls, sans voir personne, ils finiront par mourir, pas du Covid, mais de bien d'autres choses. Donc oui, ça a un coût. Je dis, à la VAD, aujourd'hui, c'est un coût d'environ 5000 euros qu'on a dépensé en matériel de protection. Heureusement, l'ARS et le département, la région ont pris le relais pour l'équipement en masque. Sinon, c'est un coût qui est plus que substantiel sur une année quand on fait changer de masque les salariés toutes les 4 heures. Mais c'est indispensable et c'est vraiment une économie qu'on ne peut pas réaliser. Ça, c'est très clair.
Ce que vous représentez au sein de l'activité dédiée aux personnes isolées et âgées, ça représente une population en pourcentage de combien de cette population sur le DIWA, par exemple ?
Je dirais que sur 10, vu le nombre de personnes qu'on assiste, on assiste plus de 10% de la population. Alors, de façon plus ou moins régulière, avec plus ou moins de... Mais je dirais qu'il y a peu... D'ailleurs, ça a été une découverte du premier confinement avec la mairie de Die, parce qu'ils avaient mis en place un système téléphonique pour évaluer les besoins des gens. Et finalement, ils nous ont contactés en disant à chaque fois qu'on contacte les gens, ils sont déjà avec vous. Donc, on a mis en place un travail de coordination. Et c'est vrai que c'était bienvenu, plutôt que de refaire en doublon. Et ça nous a permis d'identifier effectivement d'autres besoins. Mais il y a très peu de personnes âgées sur le DIWA. Alors, on est une région où, effectivement, on est la seule grande association à intervenir auprès des personnes âgées, à être autorisées et mandatées pour le faire. Il y a beaucoup de régions, notamment quand vous êtes en ville, où il y a des systèmes de concurrence avec d'autres associations et ça s'organise différemment.
Josette Lou, je passe au colis de Noël, hein, parce que c'était quand même le sujet principal. Qu'est-ce qu'on peut définir par colis de Noël et qu'est-ce qu'on y trouverait dans ces colis ?
Eh bien, voilà, donc y aura une petite... sa valisette avec quelques produits, un petit peu des gourmandises. Alors, on confectionnera... Enfin, c'est la Fraternité de Lyon qui s'occupe de ça, puisqu'on dépend de la Fraternité de Lyon, qui fait la composition des colis. Il y en aura sans alcool et il y en aura avec alcool. Et bon, ben, il y aura les petites gourmandises, comme pour les fêtes de Noël, voilà, avec une petite plante, une petite carte, évidemment, avec joyeuses fêtes. Et voilà, et c'est, je crois, très apprécié par les personnes qui le reçoivent et qui sont tout à fait contentes d'avoir un cadeau. Il y en a qui disent, vous croyez que je mérite ça ? Ben, quand même, oui, oui. Et puis, bon, le but, c'est... Bon, le colis, bien sûr, mais le but, c'est d'aller le porter et de passer un petit moment avec la personne qui reçoit ce colis pour rompre la solitude, parce que l'intitulé de cette action pour les petits frères des pauvres, c'est « Personne le jour de Noël, toute seule ». Voilà. Et donc là, voilà, ça crée du lien et on est content aussi d'avoir le partenariat de la VAD pour nous signaler toutes ces personnes qui sont seules un jour de Noël, c'est très triste. Alors là, en ce moment, on est en train d'identifier un petit peu toutes ces personnes. Et il se trouve qu'il y en a pas mal. Et on va essayer d'étaler la distribution des colis parce qu'en un jour, c'est pas possible. Voilà, je crois que j'ai résumé en quelques mots.
Les années précédentes, avant le confinement, vous pouviez aussi peut-être réunir ces personnes isolées lors d'une soirée ou d'une après-midi ?
Oui, tout à fait.
Ce qui n'est plus le cas actuellement.
Oui, ben, ce n'est plus le cas. Bon, on a eu du mal à trouver un restaurant qui puisse accueillir un certain nombre de personnes.
Pour le jour de Noël,
parce que les restaurants sont fermés ce jour-là, tout le monde est en famille, bon bref. Et là, on avait trouvé un petit restaurant, mais qui était pas facile d'accès, avec des escaliers. Ça s'est fait quand même. Et l'année dernière, par manque de restaurants ouverts, on a fait ça la veille, c'est-à-dire le 24, et on a pu accueillir. Un peu plus d'une trentaine de personnes, avec des bénévoles de l'association des petits frères des pauvres, de la VAD, qui nous ont accompagnés. On a aussi organisé une petite manifestation musicale avec deux musiciens, et dont j'ai eu l'honneur d'être chanteuse. Et on a fait chanter les personnes âgées. C'était très convivial. Un bon repas servi par la table des sœurs. Je ne vais pas faire... la publicité, mais bon, il faut que je le dise. Et puis, c'était très bien. Je regrette beaucoup que cette année, nous puissions faire ça, parce qu'il n'y a rien de mieux que le contact. Mais voilà, les conditions sanitaires nous obligent à annuler cet instant de convivialité.
Sandra, vous êtes coordinatrice. Combien de personnes opèrent au sein des petits frères des pauvres, et est-ce qu'ils sont, disséminés sur tout l'ensemble du territoire ?
Alors moi, en tant que salariée, là, donc je suis salariée sur le secteur sud de Dromardèche. Donc j'accompagne trois équipes de bénévoles, donc qui se situent dans le Diwa, Priva et sur la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron. Voilà, donc par exemple, pour l'équipe de 10, ça représente 6 bénévoles qui accompagnent 9 personnes qui sont à domicile et également en hébergement collectif, donc en EHPAD, en foyer logement. Et voilà, après, pour les équipes de Priva et la communauté commune Ardèche-Rhône-Coiron, ça représente une trentaine de bénévoles. Donc moi, j'appartiens à la fraternité Auvergne-Rhône-Alpes, où à ce jour, il y a 64 équipes de bénévoles. Donc, qui interviennent auprès de 1500 personnes qui sont âgées et isolées.
Et toute la logistique qui consiste à véhiculer les personnes ou d'aller les voir, ça nécessite un budget conséquent, je suppose. Non, pas du tout.
Bah après, ce sont voilà, des visites de bénévoles hein, qui oui. sont faites régulièrement à domicile.
Mais un bénévole engage quand même des frais au niveau de ses déplacements, au niveau de l'essence ou je ne sais quoi. Comment ça se passe, ça c'est du bénévolat pur et simple.
Oui.
Alors, donc, de la philanthropie en plus.
Voilà. Oui. Alors, sur les visites régulières qui sont proposées aux personnes accompagnées, donc quand on parle de régularité, donc une personne isolée à domicile, généralement, comment ça fonctionne ? Il y a un binôme de bénévoles. C'est-à-dire qu'en alternance, il va y avoir une visite, une semaine, voilà, chacun, ce qui représente une semaine tous les 15 jours par bénévole. Et sur les actions régulières, voilà, de visite, effectivement, les frais liés à ces déplacements à domicile, voilà, ne sont pas défrayés de l'association. Par contre, voilà, toutes les sorties qui peuvent être... en deçà de ces visites régulières, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est vrai que dans recréer du lien social, il peut y avoir aussi des accompagnements sur l'extérieur. Hein. C'est par exemple organiser une sortie avec une personne qui accompagne une sortie culturelle, aller au théâtre, au cinéma. Et voilà, toutes ces sorties-là, voilà, peuvent, tous ces frais-là voilà, sont pris en charge, en tout cas, par l'association. Aussi bien voilà, les frais liés à la sortie que pour les remboursements, en tout cas des indemnités kilométriques. Ouais.
Chaque année, l'AVA de procéder aussi à ce genre de fête.
Mais en fait, c'est la quatrième année hein, qu'on fait cette opération avec les petits frères des pauvres.
Non, mais vous, en tant qu'AVAD, est-ce que vous opériez autrement
Ce qu'on a fait longtemps, c'est qu'on faisait un goûter de Noël... les années antérieures, où on avait généralement un petit orchestre qui venait. On a organisé ça au théâtre une ou deux années. On avait même eu un orchestre avec une des salariées qui était dans cet orchestre. On organisait un moment festif avec les bénéficiaires autour du 10-15 décembre. C'est vrai que quand on a monté cette opération il y a 4 ans, à l'origine avec les petits frères des pauvres, ça a été une façon de le convertir différemment parce que c'est vrai que le jour de Noël, on avait réussi à avoir un restaurant sur Toudy qui ouvrait le 25. C'était notre ami Omar au Viaduc et qui nous accueillait extrêmement gentiment. Et c'est vrai que là, il y avait un climat très, très particulier parce que les gens étaient très, très contents qu'on ait pensé à eux. En fait, au-delà, c'est vrai que le colis, il y a du foie gras, il y a des choses bonnes à manger, il y a une bouteille, enfin, il y a des trucs bien, quoi. Mais le fait qu'on ait pensé à eux ce jour-là, je pense à... C'est le plus beau des cadeaux parce qu'on imagine toujours que les gens sont en famille, mais même quand ils ont des enfants... ou même quand ils ont des frères et sœurs, etc., on a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui sont absolument seules le jour de Noël. Et ça, c'est insupportable. Je trouve que c'est même insupportable pour nous quand on fait la fête avec nos enfants et nos petits-enfants.
Justement, quel est le taux entre hommes-femmes dans ces personnes isolées ?
Il y a une grande majorité de femmes, hein, mais ça corrobore les données qu'on a sur la population française dans son ensemble. Et je dirais qu'il y a peut-être aussi plus de femmes à rester à leur domicile. Moi, j'ai des exemples de messieurs qui sont assez vite allés en institution une fois que leur épouse avait disparu parce qu'ils ne se sentaient peut-être pas de rester seuls à leur domicile. Alors, aujourd'hui, on a de plus en plus à l'AVAD de salariés hommes. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'ils accompagnent les messieurs qui sont tout seuls dans le grand âge, probablement différemment. Et c'est un lien et c'est une relation qui se noue différemment. Mais c'est extrêmement intéressant aussi. Et je trouve ça souhaitable aussi qu'il y ait plus d'hommes à venir dans l'aide à domicile parce qu'ils sont, c'est aussi une connaissance du grand âge qui se fait... différemment. Moi, en tant que bénévole, je trouve ça intéressant d'appréhender ce grand âge. Parce que nous, très clairement, hein, les bénéficiaires qu'on assiste à l'AVAD, c'est beaucoup des gens qui ont plus de 75-80 ans. La semaine prochaine, on a l'anniversaire d'une centenaire. Mais c'est la grande majorité de notre population, c'est vraiment ce que j'appelle le grand âge. Ce n'est pas le troisième âge, hein, c'est le quatrième.
À l'heure actuelle, pour le Covid, comment ça se passe? Parce que votre activité se résume à plusieurs tâches, les actes essentiels, hein, c'est-à-dire les courses, l'habillage, enfin le quotidien. Ensuite, vous proposez des activités de sortie sociale et relationnelle, activités intellectuelles et sensorielles avec des jeux de société, des lectures, du jardinage et du petit bricolage. Toutes ces activités sont en suspens actuellement.
Tout ce qui est collectif est suspendu. Quand les salariés interviennent au domicile des personnes, elles peuvent encore faire un Scrabble, jouer, enfin, toutes les activités interindividuelles, elles peuvent les mener sous réserve d'être protégées, d'avoir des masques et de prendre les précautions élémentaires. En revanche, tout ce qui est collectif, par exemple, depuis maintenant plus de 2 ans, on organise ce qu'on appelle les cafés de la VAD sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire à Die, mais aussi dans les villages. Et ça, on le fait chaque mois. Et c'est un succès fou parce qu'en fait, il n'y a aucune contrainte. On invite juste les bénéficiaires à venir au café. Ce n'est même pas immoral, c'est juste une occasion de se retrouver. On a fait le dernier café, on a réussi à en faire un en octobre, où on a eu 25-30 personnes sur 10. Et qui était absolument ravi de pouvoir se raconter le premier confinement et la période d'été. Il est évident que toutes ces activités-là, pour l'instant, sont suspendues et que j'espère qu'on pourra renouer à partir de, je ne sais quand, janvier peut-être. Mais en tout cas, ce sont des activités extrêmement importantes parce que ça permet aux gens de se retrouver à l'échelle d'un village, de retrouver même ses voisins. Quand on a du mal à se déplacer, quand on est malade, on ne sort plus de chez soi, on n'a plus que le tête-à-tête avec la télévision qui vous dit toute la journée qu'il faut faire attention au Covid. Donc, si vous ne tombez pas malade, c'est que vous êtes vraiment bien portant. Et il vaut mieux sortir le bout de son nez, regarder la montagne de Glandas et voir qu'il y a de la neige aujourd'hui, plutôt que de rester dans ce confinement intérieur qui est bien pire que tous les autres confinements.
Il y a aussi le côté tarifaire hein, de cette proposition d'assistance à domicile. Il est actuellement, je vois, de 21,64 € de l'heure. Comment s'établit ce tarif?
Alors, ce sont des tarifs, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des tarifs autorisés par le département. Hein. C'est le département qui a la charge des anciens dans tous les départements de France. Donc, ce sont des tarifs autorisés par le département. Hélas, la plupart du temps, ils ne couvrent à peine les frais et le coût de fonctionnement. C'est-à-dire que la réalité d'un coût de fonctionnement comme les services de la VAD, c'est autour de 23 € de l'heure, le vrai coût. Alors, cela étant, ça paraît énorme à l'échelle individuelle quand il faut les sortir de sa poche. La plupart du temps, nos bénéficiaires profitent d'une allocation qui s'appelle APA, qui est l'allocation d'autonomie aux personnes âgées, et qui leur permet de couvrir très largement le coût de ces interventions au domicile, sans lesquelles ils ne pourraient pas rester chez eux. Alors, c'est important, cette contribution de l'APA. Ça évite à bien des personnes d'un grand âge de se retrouver en EHPAD avec des coûts mensuels absolument délirants, puisqu'on sait que c'est souvent des 2 500-3 000 € par mois, et je suis vraiment dans la fourchette basse. Donc, les services d'aide à domicile, je pense qu'il y a aussi cette démarche-là dans les pouvoirs publics d'aider, de participer au financement de l'assistance au domicile. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins élevé comme coût social que de mettre tout le monde en boîte dans des institutions. Et là, je ne parle même pas du bien-être et de l'envie de vivre qu'on peut avoir. Donc, c'est des services qui sont importants. Là je zappe toute la dimension de faire vivre des villages. Tous nos salariés sont dans les villages, hein, ils sont au plus près des usagers. Ça veut dire que ça fait vivre les villages du Diwa aussi.
Sandra, pareil pour vous, vous établissez un tarif horaire de ce que vous proposez ou c'est de l'entièrement bénévolat?
Voilà, alors moi je suis salariée, mais effectivement après les équipes que je soutiens, ce sont des équipes de bénévoles. Donc c'est vraiment du bénévolat pour pouvoir voilà, mener à bien ce lien social auprès des personnes isolées. Oui.
Chez nous, ceux qui sont bénévoles, ce sont, moi je suis bénévole évidemment, c'est le conseil d'administration. L'ensemble des gens qui pilotent sont des bénévoles. Mais l'idée, c'est de faire fonctionner évidemment dans le type de service des salariés pour faire cette activité avec qualification.
Après, au niveau de la fraternité Auvergne-Rhône-Alpes, pour préciser, donc ça représente 35 salariés donc, qui soutiennent les équipes de bénévoles. Et il y a également des métiers transverses aussi, voilà, comme le service comptabilité, la communication, les ressources humaines, voilà, les postes de direction aussi qui soutiennent les coordinateurs de développement social.
Vous gérez certainement des dons aussi ou une rétribution issue de dons
En tout cas, l'association, oui, vit principalement de dons et de legs. Voilà, 70% de la générosité du public permet de faire vivre l'association sur la dimension nationale.
Et puis, peut-être demander à chacune qu'est-ce qui l'a emmené dans ce désir d'assister les personnes à domicile. Dominique.
Alors moi, à l'origine, ce n'est pas du tout ni dans mes métiers ni dans mes compétences antérieures. C'est, y a deux choses. Il y a le fait que j'ai été sollicitée à l'époque par les représentants du personnel de la structure, parce que la structure n'allait vraiment pas bien. C'était 2012-2013. Et qu'ils savaient que j'avais eu déjà des expériences associatives et d'engagement importants. Ça, c'était un élément. L'autre élément, et je pense qu'on a tous ça dans nos histoires, j'avais été en contact, effectivement, avec des intervenantes au domicile, que ce soit pour mon papa ou pour ma maman. Et j'avais été assez étonnée et enthousiaste de l'importance que ça avait dans leur vie et de la présence qu'elles ont eue jusqu'au terme de la vie de mes deux parents. Et donc, c'est vrai que ça donne... Je pense qu'il y a aussi nécessité de maintenir ces services-là et d'y contribuer. Et je vais partir prochainement de cette belle structure. Mais je suis ravie de ce que j'ai pu y faire et de ce que j'ai pu y faire vivre pendant ces 7 années.
Sandra ? Pareil, qu'est-ce qui vous a permis de vous impliquer et est-ce que vous y trouvez une satisfaction dans ce que
Bien
vous
sûr.
Travaillez ?
Alors je pense que ça part aussi de mon parcours personnel aussi, de l'attachement. J'éprouve un fort attachement en tout cas auprès des personnes âgées. Mon parcours professionnel a fait que aussi. Je me suis orientée voilà, plutôt sur ce public-là et en tout cas, oui, c'est une entière satisfaction de pouvoir soutenir ces équipes de bénévoles à travers de l'association qui représente pour moi voilà, des valeurs fortes hein, qui sont la fraternité, l'accompagnement en tout cas dans la fidélité. Cette notion de bénévolat aussi, où il y a vraiment une notion aussi de plaisir partagé. Chaque petite visite, en tout cas, sont vraiment des rayons de soleil, des visites vraiment attendues pour les personnes accompagnées. Et ce bel engagement, en tout cas, des bénévoles dans cette vie associative, dans cet esprit d'équipe, c'est une entière satisfaction, en tout cas, de pouvoir les accompagner au mieux au quotidien. Voilà.
Et Josette, peut-être rajouter quelque chose, parce que je crois vous avoir posé la question au départ. Hein.
Oui, ben, moi c'est pareil. Bon, j'ai été cadre à la mairie de Die pendant plusieurs années. J'ose pas dire, parce que c'était long. Et puis, à la retraite, je me suis dit, il faut que je me rende utile. Je vais donner du temps. Et voilà, j'ai choisi cette population de personnes âgées parce que je voyais mes parents vieillissants. Bon, mon papa est décédé avant que je sois à la retraite, mais j'ai encore la chance et le bonheur d'avoir ma maman qui a 99 ans, qui est en maison de retraite à Die, mais qui va pas mal. Bonjour maman. Et puis je voulais donner de mon temps et je ne regrette pas d'avoir rejoint cette équipe parce que c'est un bonheur chaque fois de rencontrer toutes ces personnes qui sont seules. Et notamment cette mamie là où voilà des liens se sont tissés formidables, une personne qui était assez réservée, qui était très très discrète et que je fais rire et j'adore ça et elle aussi d'ailleurs je trouve que c'est merveilleux et j'espère que je vais pouvoir le faire longtemps parce que ça apporte aussi beaucoup de satisfaction.
Il y a des familles qui peuvent encore être autour de ces personnes isolées. Elles sont peut-être distantes dues à leur activité. Est-ce que vous, justement, vous correspondez avec certaines familles vis-à-vis de certaines personnes dont vous vous occupez ?
C'est ce qu'on appelle maintenant de plus en plus dans tous les dispositifs les aidants. C'est-à-dire, ce sont soit les compagnons, soit les enfants, soit des voisins. Ce sont les gens qui vont être là pour les gestes du quotidien et qu'on identifie maintenant beaucoup mieux. Et évidemment que toutes les interventions se font en lien, en coordination avec ces gens et non pas en se substituant à ceux qu'ils font. Hein, c'est tout l'enjeu avec l'accompagnement des personnes âgées. Ce n'est pas de faire table rase de ce qui fonctionne bien, c'est d'essayer de se couler là où il y a des besoins spécifiques et d'être présent selon les besoins exprimés. Donc oui, il y a une coordination. Là, je prenais l'exemple des aidants, des cafés de la VAD tout à l'heure. C'est vrai que si une personne vient avec l'aidant qui lui est familier et tout, c'est super parce qu'on a une discussion qui se fait autrement et il y a la prise en compte de l'ensemble de l'environnement de la personne plutôt que de le saucissonner. L'idée, c'est d'arrêter de saucissonner les gens entre différents besoins et qui finissent par perdre la tête entre les différents intervenants qui rentrent, qui sortent, qui viennent, etc. Par exemple, on travaille en coordination avec les gens aussi de l'hôpital dans ces interventions-là, parce que si on peut être à deux ensemble sur une intervention, ça fait sens différemment pour la personne âgée. On a parfois des personnes qui perdent un peu la tête et qui ne reconnaissent pas tous les gens. Alors surtout avec les masques. Vous vous imaginez, quand vous avez 95, 98 ans et que vous voyez 4, 5 personnes qui passent dans la journée et avec des masques. Alors, qui est Jocelyne, qui est Mirabelle et qui est... ça devient très compliqué. Donc, c'est aux professionnels d'établir cette coordination et de faire en sorte que ça prenne sens pour la personne qui est assistée.
Sandra, pareil ?
Oui, pour compléter, effectivement, je pense que l'association est aussi dans la même dimension, à savoir que voilà, toutes les personnes voilà, qui peuvent être repérées, je complète un peu ce qu'avait dit Dominique Vidal-Gazi tout à l'heure, émanent souvent, en tout cas, des partenaires. Hein, ce sont souvent les partenaires, les acteurs du domicile hein, qui vont signaler à l'équipe, en tout cas, des personnes qui n'ont pas d'entourage familial sur qui compter. Donc, c'est un champ très vaste. Hein, l'isolement, ça peut être voilà, la famille qui peut être là, mais éloignée géographiquement. Des personnes, l'entourage familial, là, physiquement, mais pas forcément en tant qu'aidant, en tant qu'accompagnant. On est quand même confronté souvent aussi à des ruptures, fractures familiales aussi. Et voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, ces acteurs voilà, nous permettent d'identifier ces personnes isolées et en tout cas de se mettre en lien s'il y a famille isolée géographiquement, voilà, pour vraiment ne pas se substituer à en tout cas ce que peuvent apporter la famille, mais vraiment voilà, signaler qu'une équipe de bénévoles est présente, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir apporter à la personne et vraiment se mettre en lien pour pouvoir accompagner au mieux et mieux connaître aussi la personne. Voilà, qui va être visité.
À VAD, on peut trouver donc votre établissement Place du Marché, à Die. Et vous avez aussi une antenne à Oust, je vois.
Absolument. Depuis 2015, nous avons intégré toute l'équipe de Oust et on a des locaux dans, à la MJC de Oust, dans l'ancienne caserne, ce qui permet d'avoir une permanence le mardi et le vendredi à laquelle peuvent se rendre à la fois les salariés des équipes locales et les bénéficiaires. Donc, on est revenu en plein centre-ville il n'y a pas très longtemps, hein, il n'y a que 2 ans qu'on est revenu juste dans le centre-ville parce que ça nous semble extrêmement important d'être au cœur de la ville, au cœur de la vie collective et de permettre aux gens de passer, de s'arrêter. On a fait en sorte maintenant d'avoir des cafetières, d'avoir un point d'eau, d'avoir des endroits où on peut faire une halte. Et les personnes âgées qui sont nos bénéficiaires, mais aussi nos salariés, ont un endroit qui est aujourd'hui accueillant, Place du Marché, où elles peuvent s'arrêter aisément.
Et puis sur Internet, on peut vous trouver donc sous ce titre « Association Vivre à domicile toutattaché.com ». Et puis pour les petits frères des pauvres, comment vous joindre ?
Alors, on va aussi remercier l'espace social et culturel du DIWA qui nous met à disposition, qui met à disposition de l'équipe en tout cas, leurs locaux pour qu'on puisse organiser nos réunions d'équipe. Donc, à savoir qu'il y a une réunion d'équipe une fois tous les un mois et demi, voilà, pour vraiment faire le point sur les accompagnements de chacun. Et également, nous avons une permanence qui est le premier et troisième vendredi après-midi de chaque mois, de 14h à 17h, où là, je me rends disponible, les bénévoles également, s'ils le souhaitent aussi m'accompagner, de pouvoir donner des informations sur l'équipe locale du DIWA.
Parmi tous les bénévoles et les personnes qui agissent, est-ce qu'il y a une prise en compte de la parité dans vos équipes ?
Il y a une prise en compte totale de la parité dans nos équipes. C'est-à-dire que nous, sur 90 salariés, on doit avoir 5 hommes quand même. Donc c'est un très gros progrès.
Vous le regrettez ça ou
alors... Absolument. On n'a pas cessé d'essayer d'en avoir plus, mais c'est compliqué. Alors moi, je suis très contente déjà d'en avoir 5. En revanche, dans les conseils d'administration, c'est plutôt l'inverse. Mais ça, c'est ce qu'on retrouve finalement dans toutes les structures en France encore aujourd'hui. Faut pas se leurrer.
Pareil pour les petits frères des pauvres.
Oui, nous avons un monsieur. qui se prénomme Yves aussi, comme vous.
Eh bien, l'émission se termine. On a cité les coordonnées pour les petits frères des pauvres, si vous pouviez nous les donner.
Voilà, alors donc vous pouvez joindre l'équipe. Donc je vais donner l'adresse mail donc, à diwa@petitsfrèresdespauvres.fr. Et il y a également un numéro de téléphone, le 06 29 99 76 88. Et si je peux rajouter aussi concernant l'action de Noël, alors on attend aussi toutes les décisions gouvernementales de la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, c'est bien engagé pour que les visites de Noël en partenariat avec l'AVAD puissent se faire, parce que c'est vraiment important de pouvoir, pour les équipes de bénévoles, de recréer cet instant de magie de Noël. Et pour mener à bien, en tout cas, ces visites et pour compléter l'équipe de bénévoles de l'année, nous ferons appel à des bénévoles ponctuels aussi pour pouvoir organiser cette action.
Et puis, dans cette période de difficultés autour du Covid, est-ce que vous êtes en recherche aussi de personnes qui pourraient encore plus vous aider ?
Oui, effectivement, c'est vrai que aussi dans cette période un peu particulière, la détresse est encore plus soutenue. Donc, il y a aussi besoin d'accompagner davantage de personnes. Et pour cela, l'équipe d'EDI et l'ensemble des équipes, en tout cas, sont en recherche de bénévoles pour pouvoir pérenniser ces actions de visite à domicile. Et pour ajouter aussi, il y a également une ligne téléphonique qui s'appelle Solitude Écoute, qui est vraiment un accompagnement soutien téléphonique proposé par l'association. Donc c'est une plateforme téléphonique avec une écoute anonyme où les personnes qui ont simplement envie de parler ou d'être écoutées donc sont en ligne des bénévoles formés qui peuvent répondre en tout cas à ces besoins exprimés par les personnes. Le numéro de Solitude Écoute est le 0800 47 47 88. Donc c'est un service qui est ouvert 7 jours sur 7 de 15h à 20h.
Dominique Vidal-Gazit, merci.
Merci Yves.
Sandra Allier et Josette Liou, je vous remercie toutes les trois d'être venues nous parler des colis de Noël sur RDY et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, au revoir. Merci, au revoir.